Merci à l'équipe de Louange de nous avoir accompagnés. Voilà, bonjour à tous, vous allez bien? Les moments de transition, c'est toujours défiant, vous savez, parce qu'il y a ceux qui veulent que la louange continue et il y a ceux qui veulent que le message commence. Donc c'est toujours... On ne sait jamais où c'est qu'il faut commencer, s'arrêter et prendre la suite. Voilà, bienvenue aussi peut-être à ceux qui nous rejoignent, qui sont là peut-être pour la première fois, ou ceux qui nous rejoignent sur Internet par hasard. Voilà, je m'appelle Christian Mono, je suis pasteur, un des pasteurs ici dans cette église. Et c'est vrai qu'on a l'habitude peut-être, pour ceux qui ne savent pas, de toujours prendre un temps de louange, on veut louer notre Dieu, et un temps où on veut aussi s'arrêter, pour aussi lire la parole de Dieu, réfléchir, vraiment se mettre à l'écoute aussi de cette parole révélée, la parole de Dieu, la Bible. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. On a l'habitude aussi de faire des séries. Alors, en tout cas, c'est plus mon habitude d'en faire. Et j'ai été un peu stoppé dans une série que j'ai commencé il y a maintenant un petit moment. C'était au mois de, sauf erreur, de décembre ou septembre, je ne sais plus, l'année passée. Et j'ai fait une série sur être un homme et une femme selon le cœur de Dieu. Et j'avais pris l'exemple de David, cet homme qui était roi dans l'Ancien Testament, roi d'Israël, le roi David, qui est appelé par, dans la Bible, dans plusieurs passages, un homme selon le cœur de Dieu. Alors voilà, j'avais envie de pouvoir continuer. J'étais un peu stoppé, il y a eu Pâques. Voilà, Pâques, j'étais un petit peu obligé de parler de Pâques, vous comprenez. Donc je n'ai pas pu apporter la suite de ma série. Et maintenant, j'aimerais terminer cette série. On a eu 4 rencontres, 4 prédications sur ce thème. Et voilà que... on arrive au bout, tranquillement, sûrement, et j'aimerais vous apporter la suite et la fin de cette série. Je ne sais pas si vous vous rappelez les autres thèmes de ce que j'ai abordé, c'est un peu loin, je vous l'accorde. Moi, j'ai révisé cette semaine. J'avais apporté quels sont les signes d'un cœur en bonne santé dans l'exemple et dans la vie de David. Je ne sais pas si vous vous rappeliez de quoi on avait parlé, mais il y avait plusieurs choses qui étaient ressorties. Les caractéristiques d'un cœur en bonne santé, on avait parlé d'un cœur entier pour Dieu. On avait parlé aussi d'un cœur qui adore et d'un cœur qui honore. Je ne sais pas si vous vous rappeliez, il y avait la balance aussi, donner du poids à Dieu. J'avais apporté une balance qu'on m'avait prêtée, qui est toujours au groupe de jeunes d'ailleurs. Non, elle n'est plus. Ok. J'avais aussi apporté un cœur plein de foi face aux obstacles, un peu dans cette idée que les difficultés et les obstacles peuvent être une opportunité avec Dieu quand on a un cœur plein de foi. Et j'aimerais voir une autre qualité aujourd'hui avec vous. Peut-être vous rappeler... Peut-être vous rafraîchir la mémoire sur qu'est-ce qu'on entend par le cœur. Peut-être se mettre d'accord sur ce que ça veut dire. Aujourd'hui, quand on parle du cœur, hein, vous savez, quand on fait ce signe, on parle de l'amour, forcément. Hein. On parle de l'émotion, des sentiments, aimer quelqu'un, avoir un coup de cœur. Et c'est juste, mais dans la notion biblique du cœur, c'est plus que cela. C'est plus que de l'émotion. C'est aussi le siège de ta réflexion. C'est le siège de tes pensées. Donc de ta rationalité, on pourrait dire aussi, c'est le siège de ta volonté. Vous savez, c'est le lieu où personne ne peut aller, où finalement c'est là que je me dis, ah tiens, pourquoi il dit ça? Qu'est-ce que ça produit en moi comme émotion? Quelle décision je prends à partir de ma réflexion? Voilà, c'est le siège de la personnalité. Donc quand on dit le cœur de l'Ancien Testament, on parle de ça. Un cœur, un homme selon le cœur de Dieu, c'est quelqu'un qui a cette attitude. Et c'est pour ça que David avait un cœur comme le cœur de Dieu, parce que dans son attitude, ça ne veut pas dire qu'il était parfait comme Dieu, mais dans son attitude, dans sa façon de penser, dans sa façon de prendre des décisions, de réagir à certaines situations, il avait la bonne attitude, la bonne façon de faire. Il avait un beau cœur dans ce sens-là. Mais il n'a pas été parfait et son cœur n'a pas toujours été magnifique. Il y a eu des choses qui sont passées qui étaient, que Dieu n'a pas tolérées justement aussi dans sa vie. Mais de manière globale, il y avait cela dans sa vie. Alors, j'aimerais aujourd'hui voir avec vous une qualité du cœur de David, une qualité qu'il avait. C'était que c'était un homme qui avait la crainte de Dieu et la compréhension de la souveraineté de Dieu sur sa vie et sur qui il était et sur tout ce qu'il faisait. Et ça a l'air un petit peu compliqué comme ça de le dire comme ça, mais vous allez voir, ça va être assez clair à la fin de mon message. D'accord ? Ça va ? Vous êtes bien ? Vous avez besoin d'une petite pause ou bien ça va ? Si vous avez besoin de vous lever, vous étendre avant qu'on commence ? Ok, vous avez l'air bien en tout cas. Bon, alors donc, j'aimerais juste... On ne va pas lire toute l'histoire de David, il y a beaucoup de chapitres, hein, c'est dans le livre de 1 Samuel, dans l'Ancien Testament, le premier livre de Samuel, le deuxième livre de Samuel, mais on va survoler la vie de David ensemble, si vous êtes d'accord. Et la première chose que j'aimerais dire, c'est pour comprendre David, il faut comprendre aussi Saül. En fait, Saül et David, il y a une sorte de résonance entre ces deux personnages. Vous savez que Saül, c'était le premier roi d'Israël et David, ça a été le deuxième. Et il y a une sorte de résonance et c'est important de comprendre cela. Et je pense que c'est inspiré par Dieu et voulu par Dieu. Dieu veut nous montrer quelque chose. Très souvent, je dis que la Bible, on la lit comme des fois on lit le journal, mais il faut la lire vraiment dans la prière et de voir ce que la Bible nous montre des fois. Des fois, on aimerait des réponses toutes simples dans la Bible. Ah, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais il y a vraiment une capacité à nous mettre à l'écoute de la Bible et la Bible nous montre des choses, nous dit pas tout, mais nous montre. Et c'est ce qu'on va voir, en fait, au travers de ces deux rois très différents. Et Dieu veut nous montrer quelque chose du cœur de David et un exemple aussi, une application pour nous aujourd'hui. Alors, la chose que j'aimerais dire, c'est que Saül, c'est un roi qui a été aussi choisi par Dieu, mais pas vraiment directement par Dieu. C'est plutôt les hommes qui l'ont choisi. Et ça, je vais vous expliquer. Et c'est un roi qui a l'image de l'être humain. Tandis que David, c'est un roi choisi par Dieu selon son cœur, à l'image de Dieu. Donc il y a déjà cette résonance entre ces deux personnages. Je vais m'expliquer. Avant qu'il y ait des rois en Israël, en fait, il y avait une autre forme de gouvernance qui était une théocratie. C'est Dieu qui dirigeait son peuple. Il l'a fait sortir d'Égypte et il l'a amené dans une terre qui est la terre magnifique où coule le lait et le miel, comme disait la Bible. Et il a amené ce peuple-là. Et en fait, quand le peuple avait des difficultés, avait besoin d'être sauvé, il criait à Dieu. Donc tout le peuple criait à Dieu et Dieu suscitait un libérateur, un juge. Ça veut dire qu'il envoyait quelqu'un pour libérer et pour faire quelque chose pour son peuple. Donc il y avait une relation très étroite entre le peuple de Dieu et Dieu. Il n'y avait pas d'intermédiaire. Il y avait une relation de proximité. Et à un moment donné, le peuple n'a plus voulu de cela. Parce que vous savez, ça, ils ont voulu un roi, comme les autres nations, mais ils ont voulu un roi aussi parce qu'il y aurait eu un intermédiaire entre le peuple et Dieu. Et quelque part, ça les arrangeait bien aussi, parce qu'il n'y avait plus besoin de se repentir. La responsabilité est reportée sur ce roi. Et du coup, ce roi devient l'intermédiaire, et c'est quelque part à lui de bien agir ou de mal agir. Donc ça a aussi convenu au peuple de se choisir un roi. Et quelque part, Dieu est triste de cette décision, et il le communique à son prophète. Vous savez, Dieu parle à des prophètes, à des personnes, communique son cœur, et il communique son cœur au prophète Samuel en disant « C'est moi qui le rejette ». Ils m'ont rejeté comme leur roi. Ils veulent se choisir un roi. Qui choisisse un roi ? Tu iras choisir Saül, ce roi, parce qu'ils veulent un roi, je leur en donne un. Donc c'est un roi choisi par le peuple. Et on voit que, à l'image de l'être humain, qui est totalement différent finalement de Dieu, qui lui est parfait, sa volonté est bonne, agréable et parfaite, nous, êtres humains, nous ne sommes pas bons, agréables et parfaits. Nous sommes faillibles. Et ce roi a bien commencé, Saül, mais ça c'est pas bien, ça n'a pas bien continué. Et à un moment donné, il n'écoute plus Dieu, il fait les mauvais choix. Comme nous, des fois, en tant qu'êtres humains, nous ne faisons pas toujours parfait. Et ce roi-là n'est pas parfait. Et ce roi-là, quelque part, n'écoute plus Dieu et ne se repent plus. Et Dieu est obligé de dire, je ne peux plus continuer à marcher avec ce roi-là, je dois choisir un nouveau roi. Donc quelque chose de nouveau qui se profile. Dieu veut déjà choisir un autre roi Et là, il va choisir un roi selon son cœur. Un roi pour lui, comme il est dit dans Samuel. Et c'est triste pour le prophète Samuel. Il est triste, il est atteint par sa situation. Il est presque en colère. Il dit, mais pourquoi Saül n'a pas marché avec Dieu jusqu'au bout? Mais Dieu, il est déjà passé à autre chose. Il dit, j'ai choisi un roi selon mon cœur. Et c'est le roi David. Et Dieu dit, va en Israël, va vers cette famille, la famille d'Isaïe, va donner l'onction. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on versait de l'huile sur la tête, c'était le signe de l'onction, d'oindre d'huile, c'était un signe pour dire que cette personne-là était reconnue comme roi. Et le prophète va venir et va verser de l'huile sur la tête de David, comme il l'avait fait pour Saül, pour dire que Dieu choisit ce jeune homme, cet adolescent, pour devenir le roi d'Israël. Et quand David reçoit cet appel finalement pour être roi, ce choix de Dieu, on voit que Dieu va être avec lui progressivement. Et vous savez, à l'époque, être roi, à cette époque-là, un roi, c'était un homme de guerre, parce qu'il fallait étendre le royaume, c'était quelqu'un qui faisait la guerre, ça faisait partie d'être un roi, c'était ça à l'époque. Et Saül a été un homme de guerre, il a étendu le royaume, il a délivré Israël, et quelque part, David va commencer à remporter des victoires, va commencer à remporter des choses. Et la première histoire que vous connaissez très bien, c'est l'histoire de David et de Goliath. Hein, cette victoire extraordinaire qui est aussi pas seulement la victoire contre ce Goliath, mais qui libère vraiment aussi qui donne la victoire à Israël par rapport à la bataille. Et on va voir que David va commencer à être embauché par Saül comme homme de guerre aussi dans son armée. Et il va commencer à avoir du succès dans les batailles. Donc on voit qu'il y a le mouvement de Dieu qui est là pour le mettre en place, pour que David commence vraiment à devenir roi. Il est dans ce chemin. Et il y a cette phrase ou ce verset qui dit « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». David commence à avoir du succès. Les gens commencent à reconnaître qu'il y a quelque chose qui se passe. Seulement voilà, Saül refuse de laisser sa place. Et David voit son ascension stoppé net. Et Saül, non seulement commence à voir ce jeune David comme un rival, mais plus que ça, il veut le tuer. Et là, on va entrer dans dans un moment de la vie de David qui n'est pas évidente. Il va devoir fuir ce roi qui veut le tuer. Il va devoir, des années vraiment de peur, de difficultés, d'incertitude, au point qu'il doit même quitter Israël. Dieu l'appelle à être roi en Israël, il doit partir, se réfugier dans les autres états à côté, chez les Philistins, chez les Moabites, il y a tout un chemin. Et même à un moment donné, il est obligé, vous le relirez ça dans 1 Samuel, sauf erreur, je l'ai noté dans Samuel 21, il est obligé de jouer le fou devant le roi des Philistins, le roi Achish, pour avoir la vie sauve, parce qu'ils l'ont reconnu, c'était leur ennemi. Il est obligé de faire des choses terribles. Et voilà aussi qu'il est même, à un moment donné, dans 1 Samuel 22, il est obligé de demander au roi de Moab, le roi ennemi d'Israël, d'accueillir son père et sa mère, dit le texte, jusqu'à qu'il sache ce que Dieu fera de lui. Moi, je ne sais pas ce qui est passé par la tête de David à ce moment-là. Vous savez, qu'est-ce qui a dû se passer dans le cœur de David, au plus profond de lui-même, à ce moment-là? Dieu veut que je sois roi, et c'est tout le contraire qui arrive. Certes, il y a eu un début. Je ne suis même plus dans mon pays, et j'ai dû fuir et prendre refuge chez mes ennemis. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu s'est trompé? Ou est-ce que j'ai mal entendu ce que Dieu m'a dit? Vous comprenez que ça fait réfléchir. Et je me pose la question, qu'est-ce qui se passe aussi dans mon cœur quand nous vivons ce genre de situation dans notre relation avec Dieu ou face à peut-être quelque chose que Dieu nous a dit ou que Dieu nous a promis ou que Dieu nous a donné? C'est une question totalement ouverte. Hein. C'est une question que je me pose à moi-même. Comment je réagirais si j'étais dans cette situation. Malgré cela, on voit que dans le cœur de David, il n'y a pas une révolte qui apparaît. Il n'y a pas une réaction, une colère. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans son cœur. Peut-être qu'il a eu des moments comme ça. Mais en tout cas, le texte ne nous montre pas cet aspect-là du cœur de David. Ne nous montre pas qu'il est quelque part révolté par rapport à cette situation. Il reste fidèle à Dieu. Il reste proche de Dieu. Et on le voit tout au long de ce moment. Quelque part, le cœur de David est un cœur, et la caractéristique du cœur de David, c'est un cœur qui reconnaît que Dieu est au contrôle, même s'il ne voit pas les choses arriver. Il ne comprend pas, mais il fait confiance à Dieu dans cette situation. Voilà dans ce genre de situation que les choses les plus profondes en nous se révèlent, et que le cœur de David est révélé ici. David a ce respect de Dieu, à cet amour de Dieu, cette crainte de Dieu, que Dieu est au contrôle et qu'il sait toutes choses. Et je vais vous le prouver par ce que David va faire, qu'il est dans cette attitude de cœur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, David va avoir l'occasion de tuer Saül. Parce que David donc a fui, il y a des hommes de guerre qui se sont mis avec lui, donc il a créé un groupe, une bande, et par deux fois, une fois dans la vallée de Engedi, il va pouvoir de nuit s'approcher de Saül alors qu'il est avec son campement, parce que Saül poursuit David pour essayer de le tuer, et il va avoir l'occasion de le tuer, mais il ne va pas le faire. Dans 1 Samuel 24, David va couper le morceau de son manteau pendant qu'il est endormi et de loin, il va lui montrer, il va lui dire. Et une deuxième fois, dans le désert de Ziph, donc c'est en Israël, hein, je vous rassure, hein, c'est pas... c'est d'autres noms. C'est dans 1 Samuel 26, David s'empare de la lance de Saül et de sa cruche d'eau pendant qu'il est endormi. Et ces hommes sont là, derrière lui, le poussent pour lui dire « Mais vas-y, fais-toi justice !» Prends ce royaume, prends cette royauté qui te revient, Dieu te l'a donnée. » Et David va avoir une réponse absolument incroyable. Il va résister à cela et il va dire « Je ne porterai pas la main sur mon Seigneur » en parlant de Saül, c'est le roi, c'est le chef, le Seigneur, « car il est le Messie d'Israël. Il a été oint par Dieu. » Donc le Messie, en hébreu, machiar, ça veut dire oindre. C'est justement oindre. C'est cette huile qu'on met sur le roi. Il a été oint par Dieu. Il a été choisi par Dieu. Il dit, si Dieu a choisi cet homme, même s'il se comporte mal, je ne vais pas le tuer. C'est à Dieu, c'est entre lui et Dieu. Et il ne va pas arracher cette royauté par la force. Mais je me suis dit, qu'est-ce qu'il a dû se passer? Moi, j'aurais eu un combat en moi. Mais si Dieu m'a dit, mais peut-être qu'il me donne l'occasion. Combien des fois de chrétiens on peut être dans ce genre de situation? Ah ben voilà, c'est le signe, il est à ma merci. Dieu a dit la chose, eh ben j'y vais. Et il retient sa main. On peut vouloir prendre quelque chose par nos propres forces, alors que Dieu doit nous le donner. C'était vraiment la pensée que j'avais pour nous ce matin, et la deuxième pensée qu'il y a avec, c'est qu'on peut aussi avoir de la peine à lâcher ce que Dieu nous donne quand il nous demande de lâcher. Et c'est là qu'on est au cœur de la souveraineté de Dieu aussi dans nos vies. Dieu avait annoncé à Saül qu'il allait donner son royaume à un autre. Dieu avait dit à Saül que je me suis choisi un autre roi. Il le savait, Saül. Et au lieu d'accepter la décision de Dieu, et la souveraineté de Dieu, que fait Saül? Il ne lâche rien. Il dit, je suis le roi et je resterai. La royauté, on aurait pu dire, la royauté c'est moi. Vous savez, il y a eu un homme là de politique français, comment il disait ça? La République, c'est moi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Il y a eu toute une histoire par rapport à ça. La République, c'est moi. Là, il aurait pu dire, Saül, la royauté, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe dans notre cœur lorsque Dieu me demande de me retirer, de laisser une œuvre qu'il m'a confiée et que je dois partir pour quelque chose d'autre? Et que je dois quelque part laisser la chose pour laquelle je me suis investi tant d'années. On le voit des fois dans des personnes qui ont implanté des églises, qui ont démarré de rien et ça s'est développé, la difficulté des fois de lâcher pour le successeur, pour la personne qui va être le futur pasteur ou le futur responsable. On le voit que c'est un défi en fait, parce qu'on s'attache à l'œuvre et à la fonction que Dieu nous a donnée. Moi j'admire mes parents qui ont été missionnaires parmi les Pygmées pendant bien des années, pendant plus de 25 ans. Et je les admire parce qu'à un moment donné, on était quand même très très loin de la capitale, vraiment dans la brousse, dans la forêt équatoriale, proche de ce peuple qui vit, ce peuple de la forêt qui vit dans la forêt. Et ils ont beaucoup donné pendant des années, ils ont semé dans les larmes, mais ils ont récolté aussi dans la joie. C'est-à-dire qu'il y a eu des conversions, il y a eu vraiment des gens qui ont été touchés, il y a eu des églises qui ont commencé, et ça, quelque part, ça marchait bien. Mais ils ont dû faire un choix à un moment donné, c'était leur famille ou le ministère. Parce que l'école à distance, ça allait un moment, mais dès qu'on en arrive au monde du gymnase, c'était compliqué. Et donc il a fallu faire un choix, est-ce qu'on envoie nos enfants en Europe, tout seul, l'aîné, puis après le suivant, etc. Je suis le quatrième d'une famille de quatre, donc il y a mon frère aîné qui était grand. Et où est-ce qu'on rentre à cause de ça? Et ils ont fait ce choix-là, de rentrer pour la scolarité de mon grand frère et pour la suite des études, même pour les autres. Donc ça a dû être un choix pas évident, j'ai trouvé, de se dire, mais c'est l'œuvre du Seigneur et je laisse ça alors que ça va bien. C'est plus facile, je trouve, de quitter quand ça va bien que quand ça va mal. Mais ça va bien. Et voilà que on doit partir. Et moi, je remercie le Seigneur qu'ils aient choisi cette option parce qu'on a pu continuer nos études et vivre la suite aussi de cela. Savoir lâcher. C'est pas évident, hein? Savoir ne pas prendre. Savoir lâcher quand Dieu nous le dit et savoir ne pas prendre tant que Dieu ne nous l'a pas dit parce que c'est Dieu qui donne. David est un cœur qui reconnaît la souveraineté de Dieu. Il refuse, alors qu'il en a l'occasion, de provoquer par lui-même la réalisation de la mission que Dieu lui avait confiée. Tant pis pour la royauté pour l'instant. David ne veut pas risquer d'agir contre Dieu. La réalisation de son projet de vie, quelque part, ne prévaut pas sur sa relation avec Dieu. Sa mission ne lui appartient pas. Elle ne le définit pas en premier lieu. Il finira, bien sûr, par s'y réaliser. Il va devenir roi. Il va même s'illustrer comme un bon roi. Mais il ne veut pas. Il veut mettre d'abord Dieu en premier. Et sa crainte de Dieu, c'est le Messie. C'est loin de l'Éternel aussi, Saül. Au contraire de Saül, qui lui, à l'inverse de David, a perdu ce recul, a perdu quelque part ce respect que Dieu est au contrôle, ce respect de Dieu. Pourtant, Saül, par moment, va avoir des éclairs de lucidité sur sa situation, qui n'est pas très bonne à ce moment-là. Par exemple, lorsque David va épargner sa vie la première fois, voilà ce qu'il va dire à David. Il va dire, tu es plus juste que moi, car tu m'as rendu du bien et moi je t'ai rendu du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un trouve son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tout bonnement son chemin ? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant, voici, je le sais, tu régneras à coup sûr et tu auras le royaume d'Israël bien en main. C'est un éclair de lucidité dans le cœur de Saül à ce moment-là, qui va vite être repris par autre chose dans son cœur. Saül aurait pu s'arrêter là. Accepter quelque part le jugement de Dieu, se soumettre à sa volonté. Et je pense que par cette attitude d'humilité, il aurait sauvé sa vie. Mais ce n'est pas ce qui va se passer. Vous connaissez la suite de l'histoire. Parce que dans le cœur de Saül, on ne sait pas tout ce qui se passe dans son cœur, mais il y avait bien d'autres choses. Je n'ai pas le temps de développer maintenant, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais au final, quelque part, la mission que Dieu lui avait confiée est devenue sa mission, son identité, sa propriété. Et rien n'aura pu lui faire lâcher prise. La royauté, c'est moi. Et à nous qui, aujourd'hui, sommes des enfants de Dieu, des fils et des filles du roi des rois, Dieu nous confie aussi des choses. Nous confie des ministères, nous confie des missions, nous confie des dons, nous confie des choses qui ne nous appartiennent pas. Nous ne sommes pas comme ces héros, vous avez déjà remarqué, dans les Marvel, ces héros de romans ou ces héros de films hollywoodiens, vous savez, qui réussissent tout, tout tourne autour d'eux, ces héros, qui, en fait, on suit dans le film ou dans le roman le destin de ce héros extraordinaire qui va remporter, qui va progresser, qui va ne pas mourir, hein, qui gagne toujours, qui apprend toujours quelque chose. Et quelque part, tous les personnages autour de ce héros sont des personnages secondaires. Parce que tout est là pour servir l'histoire de ce héros. Et on est tellement imprégné par cette culture-là, tellement imprégné à nous identifier aussi à ce héros. Et ça marche bien dans une société très individualiste, où finalement tout tourne un petit peu autour de nous. Et malheureusement, ça nous atteint aussi nous, ça atteint notre cœur aussi, en tant que chrétien, en tant que disciple. Et on oublie parfois qu'on fait partie, pas seulement de mon histoire, mais de l'histoire de Dieu. De l'histoire de Dieu et de ce monde. Le vrai héros, finalement, c'est Dieu. C'est Dieu qui s'est fait homme. C'est lui le vrai héros. C'est ce nouvel Adam qui, lui, a remporté la victoire. Parce que le premier Adam, dont nous sommes les descendants tous ici, n'a pas réussi. L'humanité n'a pas réussi. Mais Jésus-Christ a réussi. Jésus-Christ est le vrai héros. Amen. Et nous sommes les personnages secondaires de cette histoire. Et nous marchons à la suite de ce héros et qui nous ouvre la voie. Nous avons répondu à l'appel de Dieu. Il nous donne une place. On marche avec lui. Mais c'est lui qui fait l'histoire. C'est lui qui fait l'histoire, c'est lui qui donne le rythme, c'est lui qui donne les impulses, c'est sa souveraineté. Et si ma partition, si je suis musicien, si ma partition de musique est terminée ici, eh bien il peut m'envoyer de décider d'aller jouer ailleurs. C'est lui qui décide, c'est lui le chef d'orchestre. Et au centre, les personnages principaux, c'est Jésus-Christ et son Église, son corps. C'est ça. Et pour prendre une image, j'aimerais terminer avec cette image-là. Je peux inviter Laurent juste à venir pour jouer un moment. Nous sommes, pour prendre l'image d'un tableau, nous sommes les fils, ou d'une tapisserie plutôt, nous sommes les fils qui tissent la grande tapisserie de l'histoire du plan de Dieu. Je ne suis qu'un fil qui se joint à une tapisserie qui était tissée bien avant que j'existe. Et qui, quelque part, je suis ce fil qui fait partie, même maintenant, je ne suis pas ce seul fil, il y en a d'autres. Et cette tapisserie continuera bien après ma mort. Et il est bien plus important de se concentrer sur mon chemin avec Dieu, mon chemin de foi, de sanctification, sur mon intimité avec Dieu, travailler sur mon cœur, que de m'accrocher à un service ou à une fonction qui ne m'appartient pas. Ou à des œuvres que j'ai faites qui ne m'appartiennent pas. Tout est grâce. Et ainsi, tout ne dépend pas de moi. Je n'ai pas à m'inquiéter pour le fruit, finalement. Dieu produira son fruit en son temps. Je fais de mon mieux dans l'humilité et dans le dévouement du service, à l'écoute de celui qui m'a envoyé. Et les apparences d'échec et de réussite ne sont pas de mon ressort. Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour ta parole ce matin qui est tellement vraie. On se sent tellement loin de ces hommes qui ont vécu à une autre époque, dans d'autres coutumes, dans une autre culture qui parfois nous choque quand on parle de rois guerriers, de morts. On est tellement éloigné de ce monde-là, mais on est pourtant tellement proche de ces hommes-là, de ces femmes-là qui ont vécu à cette époque. Tellement proche de leur cœur finalement, puisque le cœur de l'être humain n'a pas changé. Nous sommes proches de David, de Saül, mais nous voulons être proches de ton cœur ce matin. Et Seigneur, qu'est-ce que tu dis de moi, sur moi ? Tu vois tous ces cœurs ce matin, tu vois mon cœur. Seigneur, j'avais envie de me soumettre à ta volonté, soumettre à ton plan, me soumettre à ta souveraineté. Seigneur, et tu vois nos cœurs ce matin, peut-être qu'il y a des cœurs qui doivent attendre ce que tu veux leur donner, ce que tu leur as dit. Et il y a cette tension entre ce que tu as dit et ce qui n'arrive pas. Donne à ces cœurs de pouvoir être dans cette attente, proche de toi. Peut-être que ce matin, il y a des cœurs qui ne veulent pas lâcher. Tu leur as dit, tu es dans une nouvelle saison, dans une nouvelle transition. Je t'appelle ailleurs. Et c'est comme si ce qu'ils ont a tellement fait partie d'eux, ça leur coûte. Seigneur, tu parles à ces cœurs ce matin encore. Oh Seigneur, nous regardons à toi, parce que c'est toi qui es le héros de nos vies, c'est toi qui sais, c'est toi qui reviens bientôt, c'est toi qui prépares ton Église. Oh Seigneur, nous voulons juste être dans, nous mettre à ton écoute maintenant. Alléluia. Prenons un temps juste, on écoute la musique, on se laisse rejoindre maintenant par le Saint-Esprit. Il veut parler à notre cœur. Laissons-le. Prenons quelques minutes encore.